السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، on s'est arrêté dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la bataille de Uhud. Et donc, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, la bataille de Uhud, c'est la deuxième grande bataille dans l'histoire de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu que ces deux batailles-là pour l'instant. On a déjà vu pas mal d'expéditions et de petites batailles, on va dire. Mais les grandes batailles, il y a d'abord eu la bataille de Badr, qui a résulté par la victoire des musulmans sur les idolâtres. Et la bataille de Uhud, c'est justement les idolâtres qui cherchent à se venger de leur échec, de leur défaite à Badr. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les attend au pied de la montagne de Uhud. Et la bataille de Uhud, comme on a expliqué, elle a commencé par une victoire pour les musulmans, sauf qu'à un moment donné, comme on l'avait indiqué, sur le mont des archers, il y avait 50 archers qui avaient été désignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la tête de ces archers, il y avait le compagnon Abdullah ibn Jubayr. Et finalement, quand ils vont voir que les compagnons commencent à gagner la bataille, il y en a même qui vont dans le camp des idolâtres qui a été laissé à l'abandon pour ramasser le butin, etc. Certains archers, la plupart même des archers, vont considérer que les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam de rester sur le mont des archers, quoi qu'il arrive, n'a plus lieu d'être, puisque pour eux, la bataille est finie. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait précisé, si vous nous voyez ramasser le butin, ne venez pas vous associer à nous. Et si vous nous voyez nous faire, entre guillemets, tuer, ne venez pas à notre secours. Votre poste, c'est le mont des archers. Pourquoi ? Parce que derrière, le professeur Sam avait vu qu'il y avait la cavalerie idolâtre qui était guidée par Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, qui à l'époque n'était pas encore converti à l'islam, et qui attendait le moyen de pouvoir passer derrière le mont des archers pour pouvoir prendre l'armée des musulmans à revers. Et c'est ce qui va se passer quand ils vont abandonner le mont des archers, ils vont réussir à passer, et à ce moment-là, ils vont être pris en étau. Ensuite, nous on a expliqué que tout ça va créer une grosse confusion auprès des musulmans, avec en plus de cela une rumeur qui dira que le professeur Sam a été tué, l'étendard des musulmans qu'on ne voit plus apparaître et flotter dans le ciel, Mus'ab ibn Umar qui était le porte-étendard qui a été tué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on ne voit plus. Et donc ça va créer une grande confusion, à tel point que même certains compagnons vont fuir jusqu'à Médine. On reviendra sur ça. D'autres vont se réfugier sur la montagne de Uhud, et d'autres vont lever les bras, entre guillemets, pour se rendre et pour cesser le combat. Il y a quelques compagnons qui vont se battre jusqu'au bout malgré le fait qu'ils penseront à ce moment-là que le prophète Sam a été tué, comme Anas ibn Nadr radiallahu anhu dont on a parlé. Et on a expliqué que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va être gravement blessé pendant cette bataille, Il va tomber dans un des pièges qui avait été creusé par Abu Amr al-Fasiq. Et il va être blessé par plusieurs personnes. Abdullah ibn Qami'a, Utba ibn Abi Waqqas, Abdullah ibn Shihab al-Zuhri et Abu Amr al-Fasiq, puisque c'est lui qui a creusé le trou dans lequel le prophète sallam est tombé. Et du coup, le prophète sallam a été blessé au front, à la joue, à la lèvre, il a perdu une dent, à l'épaule et au genou. Et le prophète, alayhi sallam, malgré tout, il fait des invocations en faveur des gens qui, qui lui font tant de mal. Il dit « Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun »« Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun » »« Oh Allah, pardonne à mon peuple s'ils font ça, c'est parce qu'ils ne savent pas. Guide-les. S'ils font cela, c'est parce qu'ils ne savent pas. » Ensuite, on a parlé de cet endroit-là en particulier où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est tombé dans le trou et qu'il a été gravement blessé. Donc on a parlé de ce moment-là et on a expliqué que on s'intéresse à connaître qui sont les compagnons qui étaient là autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le défendre, pour le soutenir. On a parlé la semaine dernière des compagnons inconnus, radiyallahu anhum ajma'in. Les compagnons inconnus. On a fait un parallèle avec le soldat inconnu qu'il y a dans n'importe quelle guerre. Ce sont des anonymes, des compagnons dont on n'a même pas le nom, dont on ne sait rien à propos de leur vie. Mais on sait qu'il y en avait autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils se sont tous battus pour défendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'ils sont morts à cet endroit-là. Mais on n'a pas leur nom. On leur a consacré la séance de la semaine dernière. À présent, on va donner les exemples de certains compagnons dont on connaît pas mal de choses. Et qui, pour certains d'entre eux, vont survivre à ce tragique événement. Par exemple, le premier qu'on peut citer, c'est Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu. Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu, c'est un compagnon parmi les plus importants des compagnons. C'est un des 10 compagnons qui ont été promis au paradis. Le prophète Hassim a promis le paradis à 10 compagnons de leur vivant. En les nommant, un tel, il a la garantie de rentrer au paradis, un tel, il a la garantie de... Non, comme les 4 califes, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, comme Abu Ubaida ibn al-Jarrah, qui lui aussi va jouer un grand rôle dans la bataille de Uhud, comme Saad ibn Abi Waqqas, qui lui aussi va jouer un grand rôle dans la bataille de Uhud, et comme aussi Talha ibn Ubaidillah. Talha ibn Ubaidillah, radiyallahu anhu, il fait partie des 10 promis au paradis. Il fait partie, selon les historiens, des 8 premiers convertis à l'islam. Il est toujours dans le groupe de l'élite, des premiers. Les promis au paradis, il en fait partie. Sur les centaines de compagnons qui ont existé, le prophète sallam en a cité 10 en leur donnant de leur vivant la garantie qu'ils allaient au paradis. Et parmi ces 10, il a cité Talha ibn Ubaidillah. Parmi les 8 premières personnes à s'être converties à l'islam, il y a Talha ibn Ubaidillah. Parmi les 6 compagnons de la Shura, il y a Talha ibn Ubaidillah. C'est qui les 6 compagnons de la Shura? Ça veut dire quoi? C'est les compagnons de la consultation. Vous savez, lorsque Omar, radiallahu anhu, qui est le deuxième calife, donc après la mort du prophète Hassim, il y a eu Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu comme premier calife. Ensuite, il y a eu Omar ibn al-Khattab comme second calife. Et c'est lui qui va donner cette idée, alors qu'il est en train de mourir, de désigner 6 compagnons, qu'il va appeler Ahl-Shura, les gens de la consultation. Parce qu'ils vont lui demander. Il va être poignardé en pleine prière de l'Fajr, alors qu'il guide la prière.
Parabo le 1, il va le poignarder avec un poignard empoisonné, et donc il va succomber à ses blessures. Et les compagnons autour lui demandent, est-ce que tu nous laisses une recommandation pour ton successeur ? Qui ? Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu va dire pas mon fils déjà, surtout pas mon fils, il ne faut pas que ce soit quelque chose d'héréditaire, mais je ne sais pas qui dire exactement, mais il faut que ce soit entre 6 personnes. Et parmi ces 6 personnes, il a désigné Talha ibn Ubaydillah. Et donc les compagnons, après la mort de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, ils vont dire à ces 6 personnes qui ont été désignées par Omar. Pourquoi Omar il a choisi ces 6 personnes-là? Il aurait pu en choisir d'autres. Il a dit parce que ce sont, parmi tous les compagnons, les 6 compagnons, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il est mort en étant satisfait de ces compagnons-là. Mat, il va dire Mat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa anhum radin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, il était satisfait de ses 6 compagnons-là en particulier. Parce qu'il a cité leurs noms en disant qu'il était satisfait d'eux, en faisant leurs éloges, leurs compliments, etc., plus que d'autres compagnons. Et donc Omar ibn al-Khattab, il dit ça doit être un de ces 6-là. Et donc ils vont, les compagnons à la mort de Omar ibn al-Khattab, ils vont dire, vous 6, isolez-vous et débrouillez-vous entre vous. En tout cas, vous devez sortir en ayant désigné un d'entre vous. Et ça va être une tâche extrêmement difficile qui va durer trois jours. Parce que les pourparlers, ils sont durs. Pas parce qu'ils se bagarrent chacun pour l'être, parce que chacun se bagarre pour ne pas devenir calife. Et donc, à chaque fois, ils se donnent des arguments pour éliminer l'un, pour éliminer l'autre, etc. Et ensuite, ceux qui sont éliminés, entre guillemets, ils donnent leur avis sur qui doit rester. Et ils ne sont pas d'accord entre eux. Mais au final, on ne laisse pas le choix à la personne. Parce que si on leur laissait le choix, aucun des 6 ne voulait devenir calife. Et finalement, c'est Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, qui va être désigné. Non. Ala kulli hal, j'ai juste ouvert cette parenthèse pour rappeler qui est Talha ibn Ubaydillah. On a dit Talha ibn Ubaydillah, c'est un des 10 premiers au paradis. C'est un des 8 premiers convertis à l'islam. C'est un des 6 compagnons de la Shura. On a expliqué en faisant cette parenthèse à quoi ça correspond, les 6 compagnons de la Shura. Talha ibn Ubaydillah, il va s'illustrer pendant la bataille de Uhud. À un tel point que même les autres compagnons, avant même d'arriver à ce que le prophète Hassan va dire à son sujet, qu'est-ce que les compagnons ont pensé de lui pendant la bataille de Uhud? Eh bien, même les compagnons, ils diront que ce jour-là, le jour de Uhud, et pourtant il s'en est passé des choses à Uhud, il y en a eu des compagnons qui se sont illustrés, on a déjà parlé de Hamza ibn Abd al-Muttalib, même s'il a été tué, comment il a, dans les duels, mené à bout ses ennemis. On a parlé d'Abu Dujana, on a parlé de plusieurs compagnons, Mus'ab ibn Umar radiallahu anhu. Et malgré tout, les compagnons qui ont participé à la bataille de Uhud, comme Abu Bakr Siddiq, vont dire ذَلِكَ الْيَوْمُ كُلُّهُ لِطَلْحَ. Ce jour-là, quand on leur demande alors Talha, alors Uhud, comment ça s'est passé, c'est quels sont les compagnons qui se sont le plus illustrés, eh bien Abu Bakr Siddiq disait ذَلِكَ الْيَوْمُ كُلُّهُ لِطَلْحَ. Ce jour-là, tout entier, il était pour Talha. C'est-à-dire, on a tous fait des choses grandioses, mais Talha, il nous a tellement dépassé qu'on a l'impression qu'il était tout seul à combattre le jour de Uhud. ذَلِكَ الْيَوْمُ كُلُّهُ لِطَلْحَ. On rapporte même des rimes de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu au sujet de Talha, où il aurait dit حَمَى نَبِيَّ الْهُدَى بِالسَّيْفِ مُنْصَلِتًا حَتَّى إِذَا انْكَشَفَ الْقَوْمُ حَامَى عَنِ الدِّينِ صَبْرًا عَنِ الطَّعْنِ إِذْ وَلَّتْ جَمَاعَتُنَا فالناس بين محروم ومغبون
يا طلحة ابن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وتزويج الدمى العين.
Qu'est-ce que ces rimes veulent dire? Il dit Hama Nabi al-Huda, il a défendu, il a protégé le prophète de la guidée. Il parle de qui? Il parle de Talha. Talha, il a protégé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prophète de la guidée. Hama Nabi al-Huda. بالسيف منصلتا, avec son sabre, avec son épée bien aiguisée. Il a défendu, il a protégé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec son épée bien aiguisée. حتى إذا انكشف القوم حام عن الدين. Donc il a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a protégé. Et au moment où toute l'armée a été dévoilée, entre guillemets, tout, il y a des musulmans qui ont fui, il y a des musulmans. حام عن الدين. Il a encore plus défendu et il a défendu la religion. صبرا عن الطعن إذ ولت جماعتنا. Il a patienté et enduré au coup de lame. Il a reçu plein de coups de lame. Ça, on va le voir dans certaines versions. Et il a patienté. صبرا عن الطعن. صبرا عن الطعن إذ ولت جماعتنا. Au moment où notre groupe à nous y a fui. Lui, il est resté et il a patienté au coup de lame qu'il a reçu. Naam. والناس بين محروم ومغبون. Et là, alors que lui était en train de patienter au coup de lame qu'il recevait, il protégeait la religion, il protégeait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens, les autres, ils étaient où? بين محروم ومغبون. Certains étaient privés, ah, ils ont fui, donc ils ont été privés de ce bienfait. Et d'autres marboun, ils ont été trompés, ils ont été dupés, on leur a fait croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, était mort alors que c'était pas vrai. Et il termine par dire Ya Talha ibn Ubaydillah qad wajabat lak al-jinan wa tazwij ad-dum al-ayn. Ô Talha ibn Ubaydillah, pour toi le paradis est obligatoire. Allez, tu as le paradis, c'est garanti pour toi le paradis. Ya Talha ibn Ubaydillah qad wajabat lak al-jinan wa tazwij ad-dum al-ayn. Et dans le paradis, il y a quoi? En particulier pour ceux qui ont combattu pour Allah Azza wa Jal, il y a l'Hurlaïn, les femmes du paradis. Donc, c'est à ça que cette rime fait référence. Non, même s'il y a une divergence entre les historiens sur la dernière rime, certains disent que Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu a dit dans cette rime Ya Talha ibn Ubaydillah qad wajabat lakal jinanu. C'est ce qu'on vient de citer. Et d'autres disent, il a plutôt dit Ya Talha ibn Ubaydillah qad wajabat lak al-jinan wa bawwa'at al-mahal 'ayna. Qui veut dire exactement la même chose, mais les mots utilisés sont différents. Mais la première version a l'air plus crédible par rapport aux rimes précédentes. C'est ce qui va le mieux avec. Wallahu a'lam. Ça c'est pour dire que les compagnons, des compagnons comme Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, qui ont participé à la bataille de Uhud, et leur rôle n'était pas des moindres. Malgré tout, quand on leur pose la question, ce qui leur revient, c'est ce que Talha ibn Ubaydillah radiallahu anhu a fait, à un tel point qu'ils disent ذَلِكَ الْيَوْمُ كُلُّهُ لِطَلْحَ. Alors ici on a des versions qui nous disent clairement qu'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu a dit ça. Il a dit ذلك اليوم كله لطلحة. Et on a des historiens qui ajoutent des compagnons ont dit que ce jour-là tout entier était pour Talha. Mais les versions avec précision, elles mentionnent en particulier le nom d'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Ensuite, Talha ibn Ubaydillah, dans une version authentique chez le Bukhari, qui est rapporté par le compagnon Qais ibn Abi Hazim, on nous dit عن Qais ibn Abi Hazim رضي الله عنه قال رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. Donc le compagnon Qais ibn Abi Hazim, il dit j'ai vu la main de طلحة ibn Ubaydillah ce jour-là, le jour de Uhud. J'ai vu sa main paralysée parce qu'il a défendu, il a protégé avec sa main le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire sa main. Et Talha ibn Ubaydillah était connu pour avoir une main qui était plus ou moins paralysée, dans le sens où il n'arrivait plus à l'utiliser correctement. Et lui, il explique, il dit, sa main qui est paralysée, en fait, Qais ibn Abi Hazim, il dit, moi j'ai vu au moment où elle a été paralysée, j'ai vu ce qu'il a fait avec sa main. Pourquoi ? Parce qu'avec sa main, il a dit, il explique qu'avec sa main, il essayait d'éviter les coups qui venaient sur le professeur Hassan. On expliquait que le professeur Hassan a été gravement blessé, qu'il est tombé dans un trou, qui était un piège qui avait été creusé par Abu Amr al-Fassir. Il faut s'imaginer qu'à ce moment-là, les idolâtres, ils, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, ils lancent tout ce qu'ils ont, ils balancent tout ce qu'ils ont. Les épées, les lames, les flèches. Et Talha ibn Ubaydillah, selon certaines versions, à un moment il va se retrouver soit tout seul, soit juste avec Sa'd. Et selon certaines versions, tout seul. Il y a des dizaines de compagnons autour. Avec une seule épée, il ne peut pas tout faire. Donc il utilise l'épée qu'il a pour défendre et protéger, et il utilise la main. Peu importe les blessures qu'il reçoit sur la main. On sait aussi qu'il va perdre un doigt. Talha ibn Ubaydillah, selon les versions. Alors toutes les versions que je cite, il y en a une qui est avec certitude authentique. Celle que je viens de citer du compagnon Qais ibn Abi Hazim, parce qu'elle est dans l'authentique de Bukhari. Celle dans laquelle Qais ibn Abi Hazim nous dit, j'ai vu la main de Talha quand elle a été paralysée le jour de Uhud, il a protégé avec sa main le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les autres versions qu'on cite, il y a des savants qui les ont rendues hassan, fiables, et il y a des savants qui les rendent faibles. Donc il y a divergence entre les savants. Mais on a une paire de ces versions qui sont considérées comme fiables par un grand nombre de muhaddiths, comme l'Arnaout, comme l'Albani, rahimahullah, comme l'Hakim et d'autres. Pourquoi ? Parce que ces versions, elles ont ce qu'appellent les savants du hadith al-mutaba'at, des suiveurs. Si je traduis littéralement, le mutabi', c'est le suiveur, celui qui suit. Et dans la science du hadith, ça veut dire quoi, celui qui suit? Ça veut dire qu'on a un autre hadith qui vient le suivre. Dans la chaîne de transmission, on a un tel à rapporter d'un tel, qui a rapporté d'un tel, qui a rapporté du compagnon. C'est ça une chaîne de transmission. Et le mutabi', c'est quand on a une chaîne de transmission et on n'est pas sûr de la validité de cette chaîne de transmission parce que on a un tel qui a rapporté d'un tel et celui qu'il prétend de qui avoir rapporté, on n'a que cette chaîne de transmission-là. Donc on dit « tafarrada bihi fulan ». Un tel, parmi les narrateurs, c'est le seul à avoir dit qu'il a entendu de ce cheikh-là. Donc même si c'est fiable en soi, comme il est tout seul à prétendre avoir entendu ça de tel cheikh, on a le droit d'émettre un doute. Et donc ensuite, les savants du hadith, ils font des recherches, et s'ils arrivent à trouver une chaîne de transmission qui ne va pas forcément parler de ce dont on est en train de parler de Uhud, mais une autre chaîne de transmission qui ressemble à celle-là, qui vient nous prouver qu'un tel a pu entendre d'un tel, là on va dire, il a un suiveur, c'est-à-dire un hadith qui l'a suivi dans une autre chaîne de transmission, qui l'a suivi dans le même procédé, et qui vient nous appuyer, nous conforter dans l'idée que oui, ça peut être fiable, puisqu'on a une autre chaîne de transmission qui vient démontrer qu'il a pu entendre d'un tel. Moi, c'est un peu technique, mais en tout cas, c'est pour vous expliquer par quel procédé sont passés les savants du hadith qui disent que les versions qu'on va citer à propos de Talha ibn Ubaydillah, elles sont fiables. Donc on a les compagnons qui nous disent dhalika al-yawm, et en particulier Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, dhalika al-yawm kulluhu li Talha. Ce jour-là, tout entier, il était pour Talha. Nous, c'est comme si on n'avait servi à rien. On a le compagnon Qais ibn Abi Hazim radiyallahu anhu, et ça c'est dans l'authentique de Bukhari, qui dit, j'ai vu lorsque la main de Talha a été paralysée parce qu'il a défendu, il a protégé le professeur Hassan avec sa main. On a une version dans laquelle on nous dit que Sa'd, que Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu, il va répondre immédiatement au professeur. Donc cette version, elle nous indique quoi? Elle nous indique qu'il y a 12 compagnons Vous vous rappelez, la semaine dernière, parmi les compagnons anonymes, les compagnons inconnus, ça c'est la version qui nous parle de 12, parce que nous on avait dit qu'il y avait plusieurs nombres dans les versions. Il y en avait qui nous disaient 2 compagnons, 3, 5, 9, 12, 14. Et là, la version qui nous dit qu'il y a 12 compagnons qui viennent défendre le prophète, qui sont autour du prophète Hassan, dont on ne connaît même pas le nom. Mais cette version qui nous dit 12, elle nous précise quoi cette version? Elle nous dit, le prophète Hassan va s'adresser. Il y a 12 compagnons et il y a Talha ibn Ubaydillah. Il va dire, man lil qawm, qui va nous protéger, va nous défendre contre ces gens? Man lil qawm, qui va s'occuper de ces gens-là? Cette version, elle nous dit que Talha ibn Ubaydillah est le premier à répondre en disant « Ana ya Rasulallah, moi, ô messager d'Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire « Kama ant, reste comme tu es. » Il est là, il est en train de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande « Est-ce que quelqu'un est prêt à aller carrément affronter ? » C'est pas juste rester sur la défensive. Talha, il dit « Ana ya Rasulallah ». Moi, au messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon cette version, lui dit « Kama ant, reste comme tu es. » Et ensuite, il y a un compagnon des Ansar qui y va. Et il va défendre et repousser comme il peut, jusqu'à ce qu'il soit tué. Ensuite, une deuxième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire « Man lil qawm ». Encore une fois, Talha « Ana ya Rasulallah ».« Kama ant, reste là où tu es. Reste comme tu es. » Etc. Et la version nous dit jusqu'à ce que les 12 compagnons sont tués par les idolâtres. Et là, Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu, il va donc sortir de son poste où il défend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il continue à défendre et en même temps il est sur l'attaque. Et c'est là qu'on nous dit qu'il va recevoir un coup à la main, où il va perdre son doigt. Et en recevant ce coup, la version elle nous dit, il va dire « Hassi ». Ah. En arabe, « Hassi », c'est comme « aïe ». « Aïe », c'est quoi? C'est « quand t'as mal ». Yeah. En arabe littéraire, « aïe », c'est « hassi ». Ou « awwah ».« Awwah » aussi, en arabe littéraire, c'est quand on veut dire « j'ai mal ». Ah, ça, c'était un réflexe qu'ils avaient, les Arabes, à l'époque, parce qu'ils avaient l'arabe littéraire de manière maternelle, donc ils avaient ce réflexe. Nous, si tu veux dire hassi quand t'as mal, ça ne va pas être un réflexe. Il va falloir que tu... Non, il faut dire hassi, hassi. Non. Mais eux, avant, c'était leur façon d'exprimer la douleur. Ils disaient hassi. Hein? Si vous essayez de retrouver, parce qu'on retrouve dans les versions qu'il a dit hassi. Et si vous allez voir ce que les linguistes arabes, les spécialistes de la langue arabe, disent à propos de ce mot, par exemple, si vous allez faire une recherche dans l'encyclopédie qui s'appelle Lisan al-Arab de Ibn Mandhur, il explique, on rapporte même qu'il y avait des prédécesseurs pieux qui avaient l'habitude d'allumer des bougies et de mettre leurs mains sur la flamme, pour voir ce que ça fait, et en est la douleur de la flamme. Et évidemment, tu ne peux pas rester plus de quelques secondes comme ça. Ça brûle. Donc, dès que ça leur faisait mal, ils enlevaient leurs mains et ils disaient « Hassi, Hassi ». Ibn Mandhur, il rapporte ces récits pour venir confirmer, conforter le fait que le terme « Hassi » en arabe, c'est pour dire « Aïe ». Il y en a pour exprimer la douleur. Et ses prédécesseurs pieux, ils disaient « Hassi, Hassi ». Donc « aïe » deux fois. Et ensuite, il disait « si je n'arrive pas à être fort face à la douleur des flammes qu'il y a sur terre, comment je pourrais résister à la douleur des flammes de l'enfer ?» Il se faisait ça. Attention, je ne dis pas que c'est une sunna ou qu'il faut le faire. On ne sait même pas si c'est authentique, ça. Moi, je vous dis ce qu'un encyclopédiste il a rapporté pour conforter l'idée que « hassi », ça veut dire « aïe ». Ça ne veut pas dire qu'il faut aller faire ça. L'islam ne demande pas ça. Mais eux, peut-être, certains d'entre eux, étaient dans cet extrême-là pour se rappeler, pour se remettre en cause, pour se remettre en question. Nah. Donc surtout, ne rentrez pas chez vous pour faire ça. Nah. Ma preuve, ouais, c'est l'imam qui a dit ça. Il me ramenait des machakils. Nah.
Donc, cette version, elle nous dit que Talha ibn Ubaidillah, il va tenter de défendre et de protéger le prophète Mohammed avec sa main. Et il va recevoir un coup de lame et il va dire « Hassi ». Et le prophète, dans cette situation, vous imaginez que le prophète est en danger de mort, qu'il voit des compagnons autour de lui mourir, qu'il voit que Talha ibn Ubaidillah vient de perdre, il reçoit des coups au bras, à la main, il vient de perdre un doigt, il dit aïe au final, il dit juste aïe, hassi. Et le prophète sallam lui dit لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء والناس ينظرون. Si au lieu de dire hassi, tu avais dit bismillah, au moment où tu reçois le coup et que tu as mal, et par réflexe tu dis bismillah, pour ne pas dire hassi, pour ne pas dire aïe, pour ne pas dire ah, apprends à avoir le réflexe de dire bismillah. Et bien si tu avais dit bismillah, le prophète sallam lui dit, si tu avais dit bismillah au lieu de dire hassi, les anges t'auraient transporté vers le ciel pendant que les gens t'observent. C'est-à-dire que non seulement les anges t'auraient transporté, élevé vers le ciel, et les gens auraient pu voir ça. Mais tu as dit hassi. Non. Dans une autre version, qui est rapportée par Abu Daoud Tayal ici, on nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man sarrahu an yandhura ila shahidin yamshi ala al-ard fal yandhur ila Talha. » Celui qui veut se réjouir à regarder un martyr qui marche sur terre, c'est-à-dire un martyr qui est vivant, qu'il regarde Talha. Et cette version, elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à l'occasion de la bataille de Uhud. C'est pour tout ce que Talha a fait le jour de Uhud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui veut voir un martyr qui est encore vivant. » C'est contradictoire. Un martyr, ça veut dire c'est mort. Il est mort. Mais là, c'est un martyr qui est encore vivant. C'est-à-dire il a atteint le degré de martyr avant même d'être mort. Tellement, même s'il est vivant, il a combattu comme s'il allait mourir. Il a voulu donner sa vie. Il était persuadé que c'était fini pour lui. Mais Allah en a décidé autrement. Et donc le prophète sallam dit man sarrahu an yanzura ila shahidin yamshi ala al-ard falyanzur ila Talha, qu'il regarde Talha. Une autre version, elle nous dit que Talha ibn Ubaidillah, il a reçu soit 39 soit 35 coups de lame. Mais quand il a compté ses blessures après la bataille de Uhud, il avait, selon certaines versions, 35 ou 39 blessures dues à des flèches ou à des coups d'épée ou à... Non. Et il en a réchappé. Et on va même voir plus tard, je fais un petit bond en avant pour expliquer, parce que tout ce que Talha ibn Ubaidillah va faire là, le jour de la bataille de Uhud, c'est qu'au moment où le prophète sallam va se réfugier sur la montagne de Uhud, il va regrouper les compagnons, ça on va le voir plus tard. Il va réussir par un plan, un stratagème qu'il va réfléchir sur place, entre guillemets. Il va réussir à regrouper les compagnons restants sur le champ de bataille et les approcher de la montagne de Uhud. Sauf qu'il faut grimper sur cette montagne. Et il est sur un côté où, voilà, c'est haut. Comment on fait? Et le prophète sallam est blessé. Donc il a perdu des forces, il est blessé. Et en plus, il a deux armures. Donc c'est lourd. Il doit réussir à grimper. Et donc il n'y arrive pas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Talha ibn Ubaidillah, qui a la main paralysée, qui a le doigt qu'il a perdu, et donc probablement du sang qui coule, une hémorragie, etc. La douleur, il voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrive pas à grimper, qu'est-ce qu'il fait? Il se précipite et il se met sous le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, monte sur moi. Et il aide le prophète sallallahu alayhi wa sallam à monter, et grâce à Talha ibn Ubaidillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à grimper sur un rocher de la montagne de Uhud. Et à cette occasion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire Aoujaba Talha. Aoujaba Talha.
Les savants nous disent Aujabat al-Ha, ça veut dire quoi? Ça veut dire
Aujabat lahul jannah, yani. Le paradis est obligatoire pour lui. Khlas. Le paradis lui est garanti. Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu. Il est intéressant, puisqu'on parle de Talha, de savoir comment Talha radiyallahu anhu va vivre après la bataille de Uhud. Il faut savoir que Talha ibn Ubaydillah, il n'a pas participé à la bataille de Badr, mais il va participer à toutes les autres batailles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne sera absent à aucune autre bataille en dehors de la bataille de Badr. Mais même s'il a été absent pendant la bataille de Badr, c'est comme s'il a été présent. C'est comme s'il avait été présent. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez bien, on avait dit qu'à la fin de la bataille de Badr, la question du partage du butin va se poser. Et bref, je ne vais pas revenir sur comment le prophète Sassim y a répondu, ou plutôt comment le Coran y a répondu. Mais en tout cas, il y a un élément qui nous intéresse ici, dans le partage du butin, c'est que le prophète Sassim avait réservé une part à certaines personnes qui n'avaient pas participé à la bataille de Badr. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient y participer. Mais ils ont été retenus pour une bonne raison. Par exemple, Uthman ibn Affan, qui était resté au chevet de son épouse, qui est la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui est morte d'ailleurs à ce moment-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient de la bataille de Badr et on lui annonce que sa fille vient d'être enterrée. Et donc Uthman, qui est le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'époux de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va devoir rester pour être au soin de sa femme qui est à l'agonie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui donner une part du butin comme s'il avait participé à la bataille de Badr. Et parmi les personnes qui vont recevoir une part du butin, il y a Talha ibn Ubaydillah. Pourquoi? Parce qu'au moment de la bataille de Badr, lui, il devra mener une affaire au Sham, Syrie actuelle. Et donc, il devra partir en voyage. Le prophète Hassan va lui réserver pour lui une part du butin. Donc, c'est comme si il avait participé à la bataille de Badr. Et en tous les cas, physiquement, il ne sera plus absent à plus aucune des batailles que le prophète Hassan va mener de son vivant. Et ensuite, Talha ibn Ubaydillah va s'illustrer parce qu'il fera toujours partie des gens de Ahlul Hilli wal Aqd. C'est qui que les compagnons appellent Ahlul Hilli wal Aqd? C'est les gens les plus importants qu'on consulte pour les affaires graves ou les affaires importantes de l'État, du califat. À un tel point, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il va même faire partie des 6 personnes de la consultation que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu va citer. Mais Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu, il va être tué dans une bataille en l'an 36 de l'Hégire qu'on appelle la bataille de Al-Jamal, Ma'rakatul Jamal, la bataille du chameau. Vous savez que le premier calife c'était Abu Bakr, le deuxième c'était Omar et le troisième c'est Uthman. Uthman, radiyallahu anhu, il va devoir faire face à une rébellion. Il y a des centaines, voire selon les versions des milliers de personnes qui viennent et qui campent autour de Médine et qui réclament la destitution du calife Uthman. Parmi ces gens, il y a des gens mal intentionnés, parmi ces gens, il y a des gens qui ont été détournés, égarés. D'ailleurs, les historiens ont démontré qu'il y avait des fausses lettres avec les faux sceaux, les faux tampons de Aïcha radiallahu anha, de Ali radiallahu anhu. Et ces lettres qu'on faisait croire qu'elles provenaient, qu'elles avaient été rédigées par des compagnons comme Ali ou par des épouses du professeur comme Aïcha, qui demandaient aux gens de venir se rebeller contre Uthman, alors que c'était des fausses lettres. Et on sait qu'à l'origine de tout ça, c'était Abdullah ibn Saba. D'ailleurs, il va être à l'origine d'un groupe qu'on appelle Saba'iyoun, les Saba'ites. Et donc, dans ce groupe qui est venu se rebeller contre Uthman, il y a des gens qui se sont fait avoir, qui ont été trompés. Et il y a des gens, ils savent très bien que tout ça est mensonger, mais leur but, c'est de semer la division entre les musulmans et de porter un coup à l'unité des musulmans. Les musulmans étaient unis jusque-là. D'ailleurs, les savants disent, depuis que la porte du trouble et de la division a été ouverte avec l'assassinat de Uthman, elle ne s'est plus jamais refermée. Jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qu'on vit comme division dans la Ummah, etc., beaucoup de savants disent, c'est une conséquence, même lointaine, de ce qui a été ouvert comme fitna, comme division, comme trouble, avec l'assassinat de Uthman. Donc le Mouhim, il y a eu ces troubles. Ensuite, il y a même des gens qui vont venir assiéger la demeure de Uthman,
radiallahu anhu, pour qu'il le démissionne, et lui refusera de démissionner. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu va venir insister pour lui dire il faut qu'on les combatte, pour les repousser. Uthman ibn Affan va lui dire non. Il va lui mettre une fin de non-recevoir en expliquant qu'il ne veut pas être le premier calife qui va appeler des musulmans à combattre contre des musulmans. Mais il refuse en même temps de céder au chantage, et donc il refuse de démissionner, et il refuse d'utiliser les armes contre eux. Et donc finalement, il y a un groupe qui va s'introduire dans sa demeure, et il va être assassiné. Uthman radiallahu anhu. Et juste après lui, quel est le quatrième calife qui va être désigné? C'est Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Et tous les compagnons lui prêtent serment d'allégeance. Tous les compagnons qui sont à Médine lui prêtent serment d'allégeance. Les seuls qui lui prêteront pas serment d'allégeance, pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils disent que c'est pas encore le moment, qu'il faut d'abord venger le sang de Uthman, c'est Muawiyah ibn Abi Sufyan qui est à Damas, au Chem, en Syrie. Parce qu'il est le cousin de Uthman ibn Affan, et la femme de Uthman ibn Affan va envoyer son habit ensanglanté à Uthman, et ses doigts à elle, parce qu'elle est venue s'interposer au moment où Uthman va être assassiné, il va recevoir les coups d'épée, elle va venir s'interposer, elle va perdre ses doigts. Elle va lui envoyer ses doigts en lui disant tu es le dernier cousin vivant de Uthman, il a été assassiné, et ses assassins ils sont libres, ils vivent en liberté. C'est à toi de réclamer le sang de Uthman. Et donc il va dire à Ali ibn Abi Talib, nous te reconnaissons comme calife, mais avant de prêter serment d'allégeance, où sont les assassins de Uthman? Ali ibn Abi Talib, la divergence entre Ali ibn Abi Talib et Muawiyah ibn Abi Sufyan, elle va porter sur, est-ce qu'il faut d'abord venger le sang de Uthman ou d'abord désigner le calife? Mais nous, je vous mets dans le contexte pour parler de Talha ibn Ubaidillah. Talha ibn Ubaidillah, il est à Médine à ce moment-là. Il prête serment d'allégeance sans aucun problème à Ali ibn Abi Talib. Zubayr ibn al-Awwam, il prête serment d'allégeance sans aucun problème à Ali ibn Abi Talib. Aisha radiallahu anha, elle prête serment d'allégeance. Et cette période-là, elle coïncide avec la période du Hajj. Et ils vont au Hajj, ils prêtent serment d'allégeance à Ali ibn Abi Talib, et ensuite ils vont au Hajj, à la Mecque. Et là-bas, beaucoup de compagnons sont réunis, beaucoup de gens de toutes les contrées, et beaucoup de gens se plaignent et disent aux compagnons importants comme Talha ibn Ubaidillah, Zubayr ibn al-Awwam, Aisha radiallahu anha, ils leur disent c'est pas normal. Le calife de l'islam a été assassiné. Et certains de ces assassins sont libres. Peut-être certains d'entre eux, ils sont là, au vu et au sud de tous, à Médine. Il faut faire quelque chose. Et donc Talha ibn Ubaidillah, Zubayr ibn al-Awwam et Aisha radiallahu anhum, ils vont prendre un groupe de gens, certains disent jusqu'à 5000 personnes, pour aller vers l'Irak. Pourquoi vers l'Irak? Parce qu'on sait que la plupart des rebelles, ils étaient soit de Basra, la ville de Basra en Irak, El Koufa en Irak également, ou d'Égypte. Et donc ils disent, on va d'abord aller en Irak, et ensuite on ira en Égypte. Et ils commencent par la ville de Basra, le Basra. Quand ils arrivent à Basra, la ville, entre guillemets, elle se divise en deux. Il y a les Sabaïtes, évidemment, qui sont mal intentionnés, qui sont responsables de la mort de Uthman. Eux, ils sont contre Talha, Zubayr et Aisha. Il y a des gens qui sont pas mal intentionnés, mais qui se sont fait avoir, qui se sont trompés. Et donc, ils sont convaincus par les Sabaïtes. Et donc, ils les suivent. Et il y a d'autres qui, eux, disent non. Nous sommes du côté des compagnons comme Talha. Et donc, il va y avoir des batailles entre Talha ibn Ubaidillah, Zubayr ibn al-Awwam et son camp, et leur camp, et ceux d'en face, les gens de Basra. Sauf qu'à Basra, il y a un amir, un chef qui a été désigné par qui? Par le calife Ali ibn Abi Talib, qui s'appelle Uthman ibn Hanif. Quand il va voir ça, il va réclamer à Talha ibn Ubaidillah et Zubayr ibn al-Awwam de retourner, de repartir à Médine et de régler cette affaire avec Ali, mais de ne pas venir sans les ordres de Ali, qui est le calife, essayer de venger le sang de Uthman. Ils vont refuser de repartir, donc à ce moment-là, Uthman ibn Hanif va alerter Ali ibn Abi Talib qu'il va venir jusqu'à Basra, et il va y avoir des pourparlers entre Ali ibn Abi Talib et Talha ibn Ubaydillah. Pourquoi c'est intéressant de comprendre et de savoir ça? Les chiites, ils disent du mal de Talha ibn Ubaydillah et Zubayr ibn al-Awwam. Ils prétendent qu'ils n'ont jamais prêté serment d'allégeance. Ils prétendent qu'ils se sont rebellés contre Ali ibn Abi Talib. Et donc cette histoire avec ces détails-là, sur lesquels les historiens de Al-Sunnah al-Jama'a, Ibn Hazm, Tabari et bien d'autres sont tous unanimes pour dire que c'est... Voici, yani, ils ramènent les versions, voici yani, l'enchaînement des événements. Ils ont prêté serment d'allégeance. Ils ne se sont pas rebellés contre Ali parce que s'ils avaient voulu se rebeller contre Ali, quand ils reviennent de la Mecque, pourquoi ils ne sont pas partis à Médine en premier pour se rebeller contre Ali? Ils avaient 5000 personnes avec eux, armées jusqu'aux dents. Non, ils sont partis en Irak. Pourquoi? Parce que leur seul objectif, c'était d'attraper, en fait, de capturer tous les gens qui étaient responsables de la rébellion contre Uthman et de l'assassinat de Uthman, radiyallahu anhu. Mais il va y avoir des pourparlers entre Ali, radiyallahu anhu, et le camp de Talha ibn Ubaydillah, Zubayr ibn al-Awwam et Aïcha. Ils vont se mettre d'accord que chacun y retourne, ils retournent tous à Médine, et qu'ils vont régler ce problème de l'assassinat de Uthman ibn Affan. Il y en a Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Lui, qu'est-ce qu'il est, il se tuera à expliquer? Il dira, Uthman ibn Affan a été assassiné. Ceux qui l'ont assassiné, d'abord, on n'a pas, il faut faire une enquête, on n'a pas les noms exacts. On sait qui était là dans les rebelles, mais qui exactement a porté les coups? On ne sait pas. Il faut des preuves, on ne va pas accuser sans preuves. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les gens sont divisés. La rébellion a créé une division. Il faut d'abord réunifier le califat, parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés et des gens qui ont été égarés. Et si je m'occupe tout de suite des rebelles ou des assassins de Uthman, ceux qui ont fait que suivre, ils vont encore une fois être égarés, ça va créer encore plus de divisions. D'abord unifions nos rangs et ensuite, ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper des assassins de Uthman. Mais d'autres compagnons considéraient que non, il fallait tout de suite comme... Talha ibn Ubaydillah, etc. Mais avec ces pourparlers, ils se sont mis d'accord que le lendemain, chacun devait rentrer à Médine et que cette affaire allait être réglée par Ali ibn Abi Talib. Et les Saba'ites, qui sont responsables de la rébellion contre Uthman, qui sont responsables de l'assassinat de Uthman ibn Affan, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils étaient infiltrés à la fois dans le camp de Zubayr et de Talha et à la fois dans le camp de Ali. Et quand ils vont voir que les pourparlers ont réussi à se mettre d'accord sur les pourparlers, ils vont se mettre d'accord, les Saba'ites, pour combattre pendant la nuit. Ils vont se mettre d'accord, ils vont dire, vous nous lancez des flèches et nous on vous lance des flèches, pour faire croire aux deux camps qu'ils se sont trahis et qu'ils ne veulent pas respecter les négociations. Et c'est ce qui va se passer, ils vont se lancer des flèches, au début c'est que les Saba'ites, et ensuite les deux camps ils vont se combattre parce que chaque camp, comme ils voient des flèches arriver du camp d'en face, chaque camp pense qu'ils sont attaqués par surprise alors qu'ils avaient convenu le lendemain de rentrer. Zubayr ibn al-Awwam, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il s'écarte. Il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il s'écarte et il est tué. Zubayr ibn al-Awwam à cet endroit-là. Talha ibn Ubaydillah, lui, rentre, mais pour essayer de s'interposer, et il dit, arrêtez, cessez. Nous nous sommes mis d'accord, arrêtez de combattre. Et il va être tué également à cet endroit-là. Aïcha radiyallahu anha également, elle est sur un chameau. C'est pour ça qu'on appelle cette bataille la bataille du chameau. Elle est sur un chameau et certains vont la viser. Ils vont toucher le chameau et donc le chameau va être abattu, elle va tomber du chameau. Non. Et c'est par cette cause que le combat va cesser, parce que là les gens ils vont se rendre compte de la gravité de ce qu'ils sont en train de faire. Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du professeur Hassim, qui est venue pour s'interposer, pour dire arrêtez. On l'a fait tomber de son chameau. Et donc là, les gens, ils cessent le combat, etc. Mais Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, a été tué à cet endroit-là. Talha ibn Ubaydillah, radiyallahu anhu, a été tué à cet endroit-là. Et avec tous les hal, tout cela, ça nous résume qui était Talha ibn Ubaydillah, radiyallahu anhu, et comment il s'est illustré dans la bataille de Uhud. Et donc ça, c'était un exemple, Talha ibn Ubaydillah. On va essayer d'accélérer. Et à partir de la semaine prochaine, on essaiera de citer tous les compagnons qui nous restent, ou en tout cas presque tous les compagnons qui nous restent, si on n'arrive pas à tous les citer. Et donc ça, on le fera à partir de la semaine prochaine, parmi lesquels Abu Talha, parmi lesquels Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhum, et bien d'autres. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.